Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de Chrétien d'Orient, nous sommes avec le professeur Jean-Pierre Mahé, un habitué de notre émission, amoureux et savant de la langue arménienne, de sa culture et de sa spiritualité. C'est ce dernier mot qui nous rassemble en ce dimanche matin, la spiritualité. Mais plus précisément peut-être, et nous allons expliquer pourquoi la spiritualité arménienne. Thème de notre conversation que nous allons aborder ensemble. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez insisté lorsque nous préparions cette émission sur l'explication du mot spiritualité qui est beaucoup utilisé à notre époque mais finalement peut-être peu expliqué.
Oui, par spiritualité, il faut sûrement pas entendre une théorie intellectuelle sur Dieu. La spiritualité n'est pas une théorie, c'est Dieu sensible au cœur, aurait dit Pascal. Et pour que Dieu soit sensible au cœur, bien il faut obtenir une grâce. Les anciens auraient dit le don des larmes. Hein, par exemple, Évagre, le pontique, qui a été traduit en arménien au 5e siècle, explique très précisément qu'il faut vaincre d'abord la dureté du cœur et obtenir le don des larmes. Et ça s'obtient par des exercices tout à fait spécifiques sur lesquels les Arméniens ont pris des positions qui sont historiquement assez cernables. Alors je dirais qu'une des premières options des Arméniens, c'est l'intérêt pour Jérusalem, le modèle de Jérusalem. Vous voyez, il y a eu des pèlerinages arméniens à Jérusalem dès le 4e siècle. On a même retrouvé une lettre d'un patriarche macaire qui explique aux Arméniens comment ils doivent s'y prendre pour fêter Pâques et pour donner le baptême aux catéchumènes, aux époques les plus anciennes. Et puis après, on voit le très grand catholicos Saint Saac qui, dès que l'alphabet est inventé, envoie des traducteurs à Jérusalem pour traduire la liturgie de Jérusalem. Et les lieux saints de Varar-Shapat, d'Etchmiadzin, qui sont consacrés aux martyrs et à la vision de Saint Grégoire, se répartissent les différentes cérémonies de la semaine sainte et en général de la liturgie stationnaire de Jérusalem. Donc Jérusalem, c'est une fidélité très importante de l'Église arménienne, et ça vous explique d'ailleurs que les Arméniens fêtent Noël le 6 janvier, selon l'usage ancien de Jérusalem.
Quand nous pensons à l'Église arménienne, nous pensons beaucoup à cette élévation que nous trouvons dans ces églises, pour ceux qui ont la chance de les connaître, qui ressemble un petit peu à nos cathédrales, mais peut-être en plus réduit et certainement plus ancien, ce dôme qui s'élève vers le ciel. Comment on peut spirituellement interpréter cette architecture, par exemple?
Bien, cette architecture, évidemment, c'est le ciel rond qui repose sur la terre. Mais peut-être que la coupole n'est pas l'endroit le plus élevé, je veux dire métaphoriquement, de l'église arménienne. Je pense que la tribune de l'autel est encore plus élevée que la coupole, parce que au fond, ce sont les cieux invisibles, les sphères que nous ne voyons pas. Et effectivement, la prière doit atteindre ces hauteurs-là. Et donc, il y a Jérusalem, mais il y a aussi l'importance, j'allais dire, de la liturgie. Parce que, voyez, nous avons en Occident une idée très intellectuelle de ce qu'est la connaissance de Dieu. Nous pensons que on adore Dieu parce qu'on le connaît. Hein. Et les Arméniens, comme tous les Orientaux, disent: on le connaît parce qu'on l'adore.
Répétez-nous ça. On n'adore pas Dieu parce que nous le connaissons,
mais on apprend à le connaître en l'adorant. Alors ça veut dire que les exercices sont premiers. Naturellement, pas des exercices qu'on fait mécaniquement. Ces exercices, ils tiennent un peu du « abêtissez-vous » de Pascal. Mais, évidemment, il faut qu'ils soient, justement, pénétrés d'une certaine spiritualité qui est liée au don des larmes dont nous parlons. Et c'est l'exemple que nous donne Mesrop Mashtots, l'inventeur de l'alphabet arménien.
Un personnage essentiel dans l'histoire de l'Église arménienne.
Certainement, et
faut-il
donc
le rappeler
certainement aussi quelqu'un qui est le maître de la lecture de l'Écriture sainte, puisque c'est lui qui l'a traduite pour la première fois en arménien.
À quelle époque sommes-nous rapidement
405 à peu près. 405. Alors on nous dit que c'était un militaire, un organisateur, et que un jour il lit l'Évangile et en grec, hein, et il y mit d'abord le doigt et le bras y passa tout entier. Et à ce moment-là, il comprit que quelle est la mesure de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est la mesure de l'Évangile? C'est pas une fois, deux fois, trois fois plus. C'est 77 fois cette fois. Hein. Donc ça veut dire il n'y a pas de mesure. Et aussitôt, il quitte toutes ses fonctions à la cour et il s'en va dans la montagne avec deux ou trois camarades pour faire des exercices qui étaient déjà à cette époque bien des exercices ascétiques, qui étaient déjà bien codifiés, qui sont décrits par exemple dans l'histoire sacrée de Théodoré de Cyre. On allait dans les montagnes, on restait debout pendant toute la nuit, si possible les bras étendus, pour prier en papillotant des yeux, nous dit le personnage. Et puis, quand on avait ainsi abondamment pleuré sur ses péchés, mortifié sa chair, alors on s'estimait capable éventuellement d'enseigner les autres. Hein, donc il y a cette tradition qui dit... Quand tu pleureras, alors tu vivras. Pourquoi pleurer? Parce que le cœur est endurci. Il faut vaincre la dureté du cœur, c'est-à-dire l'habitude, c'est-à-dire l'indifférence, c'est-à-dire toutes sortes de choses qui font qu'on ne peut pas entendre le message de l'Évangile. Parce que je dis tendre l'autre joue, n'est-ce pas? Ça paraît un excès impossible pour quelqu'un qui est sûr de lui et qui a le cœur, je dirais, endurci. C'est donc cette école de vaincre l'endurcissement du cœur qui caractérise la spiritualité de Mesrop Mashtots.
Alors nous évoquons des exercices, pour que nos auditeurs comprennent bien, des exercices physiques qui sont une forme de prière.
Des exercices physiques qui sont une sorte de prière, parce qu'ils s'accompagnent de prière. Mais aussi des exercices spirituels, alors que on comprend mal à travers la vie très concise que nous avons de Mesrop Mashtots. Mais on peut être sûr que l'un des successeurs les plus évidents de Mesrop Mashtots, au point de vue de la spiritualité, c'est le grand saint du Xe siècle, qui s'appelle Saint Grégoire de Narek. Alors pourquoi? Ben parce que toute l'école de Narek, justement, en réaction contre la science philosophique, je dirais, des monastères du nord de l'Arménie, voulait revenir à ce fondamental qui est, disons, Dieu sensible au cœur, c'est-à-dire la sensibilité sur soi-même, vaincre son égoïsme. Alors le maître et modèle de Saint Grégoire de Narek, qui était son oncle, l'abbé Anania, il avait inventé ça sous forme de soliloque, c'est-à-dire quand tu te trouveras dans telle et telle situation, songe à te dire en toi-même. Donc c'est l'âme qui parle avec elle-même pour se faire des reproches, pour échauffer son imagination, pour se représenter la mort, la fragilité de la vie, l'immensité de Dieu et la nécessité urgente de la pénitence, du repentir, du retour sur soi-même. Il y avait une école au monastère de Narek et on peut imaginer que l'un des exercices pratiqués par l'abbé Anania, c'était le jugement dernier et dans 5 minutes. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Songez bien que vous ne pouvez pas vous cacher, qu'il va falloir tout avouer, tout dire. comment vous présenterez-vous devant le Seigneur ? Il est probable que, très jeune, Saint Grégoire de Narek a rédigé de tels exercices. Et donc, lui, il va passer à quelque chose de beaucoup plus hardi pour reprendre une expression qui est propre à son père, l'évêque Roslov. Il veut retrouver l'art du grand Moïse, qui est l'art de parler à Dieu, directement. Et c'est pour cela qu'il compose ses prières à Dieu des profondeurs du cœur. 95 discours de prières à Dieu des profondeurs du cœur.
Nous sommes avec Jean-Pierre Mahé ce matin, nous évoquons la spiritualité arménienne, donc par cette figure de Saint Grégoire de Narek qui semble assez importante. Nous sommes à quelle époque, précisément par rapport au personnage précédent que nous avons évoqué ?
Eh bien, nous sommes dans les années qui vont de 960 à peu près à 1002.
Donc, on est 5 ou 6 siècles
après.
Après, voilà.
Après.
Comment la transition se passe finalement entre ces périodes ? Ce sont quand même des périodes étendues dont nous parlons dans une géographie très particulière, encore une fois. Est-ce qu'il y avait des écoles ? Est-ce qu'il y avait des universités qui permettaient justement de transmettre ces exercices spirituels dont nous parlons ?
Eh bien, c'est-à-dire il y a à la fois des continuités et des ruptures dans cette période à cause de l'histoire très mouvementée de l'Arménie. Il faut bien se représenter que, contrairement à ce que racontent les historiens arméniens, il n'y a pas eu de cénobitisme ni de vraie communauté arménienne en Arménie.
De monastère.
Hein. De monastère, je veux dire.
Voilà.
Il n'y en a pas eu avant la fin du 6e ou le début du 7e siècle. Ça, c'est un premier point. Pourquoi ? Parce que c'est les premières communautés monastiques arméniennes existent d'abord à Jérusalem. Et ensuite, dans les années 560, les Grecs commencent à expulser les Arméniens de Jérusalem à cause du concile de Chalcédoine. Donc ces Arméniens vont revenir en Arménie, fonder de nouvelles communautés. Mais tout est coupé par les Arabes.
Mais ils vont porter avec eux la mémoire de Jérusalem.
Mais ils apportent avec eux la mémoire de Jérusalem, les rites de Jérusalem, les prières de Jérusalem. Et donc ça, c'est très très important.
Donc on en revient finalement à votre point de départ. Nous avions commencé d'une certaine manière avec Jérusalem.
Oui.
Donc c'est cette Jérusalem que l'on porte avec soi ?
Oui, et quand on porte Jérusalem, il faut bien comprendre qu'on porte à la fois la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Et c'est ça qui est très important, parce que, voyez, le mot « orthodoxe », en arménien et dans toutes les chrétientés orientales, il n'est pas interprété comme en Occident, comme ceux qui ont une attitude, une opinion droite, mais ceux qui rendent gloire, doxa. Qui rendre gloire avec justesse. Qu'est-ce que ça veut dire, rendre gloire avec justesse ? Ça veut dire en accord avec les anges des cieux. C'est-à-dire qu'il faut que ce qui se passe dans l'église d'en bas, qui est l'église de Pierre, je veux dire, qui est la Jérusalem terrestre, corresponde avec ce qui se passe dans la Jérusalem d'en haut. Et donc, le point de Saint Grégoire de Narek, c'est que la Jérusalem de Pierre a une grosse faiblesse. Elle a, il n'est pas contre, mais elle a une faiblesse, c'est que, d'une certaine façon, elle a besoin de revenus, elle a besoin de dispositions matérielles pour subsister, et il ne faudrait pas qu'à cause de cela, elle soit inaccessible aux pauvres. Il veut donc construire une église, j'allais dire, Jérusalem terrestre, qui soit uniquement spirituelle. Et c'est ça le but de son livre de Lamentation, de ses paroles à Dieu. C'est-à-dire construire en lui-même un temple spirituel qui durera éternellement, et dans lequel chacun priera, chaque génération priera pour les générations passées et pour les générations futures, et recevra finalement la prière de l'Église universelle.
Est-ce qu'il y est arrivé ?
Ben oui, d'une certaine façon, il y est arrivé. C'est-à-dire, il a eu quelques ennuis qu'on connaît assez mal. Probablement, il a inquiété un petit peu la hiérarchie, mais il a réussi à montrer qu'il n'était absolument pas contre la matérialité du culte et contre les institutions. Il a soigneusement respecté la tradition, la terminologie propre à son Église. Et son livre est surtout devenu le livre qui a traversé plus d'un millénaire et qui a toujours accompagné les Arméniens dans leur parcours. C'est pour ça que le pape François, le 12 avril, l'a proclamé docteur de l'Église. Hein, parce que maintenant, d'ailleurs, il commence à déborder grâce aux nombreuses traductions étrangères qui se sont succédées depuis les années 1960.
Jean-Pierre Mahé, je crois que vous avez travaillé sur le texte de Saint Grégoire de Narek.
Oui, moi j'ai publié une traduction du livre de Lamentation qui avait été préparé, qui avait été traduit une première fois par le père Isaac Kechichian. Il me semble que j'ai surtout essayé d'expliquer quels sont les exercices justement qu'il propose à l'intérieur, c'est-à-dire pas du tout la théorie, pas du tout le contenu, mais quels sont les moments qu'il voudrait changer en nous-mêmes. Pourquoi c'est un manuel de spiritualité ?
Est-ce que vous trouvez, quand vous étudiez ou quand vous consultez peut-être l'histoire d'autres religions, est-ce que vous trouvez des équivalences, par exemple, avec d'autres pratiques spirituelles ?
Alors, bon, d'abord, il y a des sources spirituelles, des sources patristiques, j'en ai parlé... J'ai parlé de quelques-unes, mais c'est-à-dire Évagre, certainement c'est le plus proche. C'est assez loin, vous voyez, des pères cappadociens. Il y a des idées théologiques. Hein. Vous voyez, il y a une œuvre de jeunesse de Saint Grégoire de Narek qui est le commentaire sur le Cantique. Dans ce cas-là, on peut parler de Grégoire de Nice, on peut parler des pères cappadociens. Mais par la suite, il prend ses distances, il a une attitude beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intérieure de ce côté-là. Et puis, il y a des rapports avec les autres, évidemment, on pourrait penser à certains mélodes. Mais je veux dire, il y a par exemple Romanos le Mélode, les contactia de Romanos le Mélode. Mais je dirais que ça, c'est une autre face de Saint Grégoire de Narek. C'est-à-dire, ce n'est pas la face du livre de Lamentation. C'est la face du trésor des fêtes qui vise à spiritualiser la liturgie, à transformer la prière de l'assemblée, de prière des lèvres en prière du cœur, et à provoquer, j'allais dire, une espèce d'extase ou de prière non dite, collective, non parlée, collective, spirituelle, mentale, par l'intermédiaire de la musique et de la déconstruction du langage. Mais ça peut rappeler certains modèles byzantins.
Pour tous ceux qui ont eu la chance d'assister à une cérémonie, une messe arménienne, nous sommes frappés par les chants, par la qualité et l'importance du chant dans la liturgie. Est-ce justement un exemple peut-être de ce genre d'exercice ?
Certainement. Certainement, le chant, comme je le disais à l'instant, il est à l'unisson des chœurs célestes. Alors, la base du chant, c'est la vision d'Ézéchiel. C'est donc le trois fois saint, et c'est évidemment tout ce qui prépare, c'est-à-dire, vous savez que la messe est précédée d'une longue, de longs préliminaires, de pénitences, qui sont d'ailleurs dues à Mesrop Mashtots, pendant que le prêtre met ses vêtements. Donc il y a d'un côté le prêtre qui est tout seul et qui dit ses hymnes de vêture, et de l'autre côté, vous avez le public qui se repent.
Est-ce une manière de joindre en tout cas la Jérusalem terrestre à la Jérusalem céleste portée par ces voix ?
Oui, certainement. Certainement, puisque y a un unisson. entre les voix. Mais attention, il faut pas mélanger les voix de femmes et les voix d'hommes. Enfin, tout ça, c'est des questions. Il faut pas d'instruments.
Dites-nous justement un petit peu. On ne mélange pas les voix parce que
aujourd'hui, voix... oui. Mais disons, si nous restions dans la règle du Moyen Âge, la question du sexe des anges ne se pose pas. Les anges sont masculins et ce sont des chœurs masculins. Donc a cappella, parce qu'il ne faut pas d'instruments de musique, qui sont monodiques et qui sont à l'unisson des chœurs célestes, comme on pense naturellement.
Et la tradition que l'on retrouve aussi dans la musique byzantine, qui est une musique sans instrument, se retrouve
sans
aussi...
Sans instrument, parce que les instruments vibrent à cause des souffles diaboliques. Et donc, il faut pas... C'est une deuxième impureté du chant si on met un accompagnement instrumental.
Jean-Pierre Mahé, vous avez évoqué très rapidement tout à l'heure, on va y revenir une petite minute, Saint Grégoire de Narek est devenu docteur... de l'Église.
Oui.
Comment s'est fait ce processus? Vous avez suivi un petit peu?
Pour que le pape proclame un nouveau docteur de l'Église, il faut d'abord que cette cause soit portée par une communauté chrétienne. Donc, en réalité, c'était une demande qui avait été présentée pour la première fois, justement, dans les années 60, par l'Église catholique arménienne. Et qui, à l'époque, était probablement prématuré parce que on n'avait pas suffisamment étudié la doctrine ni publié les œuvres. En réalité, il faut que les œuvres soient traduites dans une langue accessible. Il faut qu'on démontre la sainteté de la vie, la rectitude de la doctrine et une certaine créativité théologique.
Qu'avez-vous ressenti, vous, en tant que chercheur et spécialiste de Saint Grégoire ?
Eh bien, moi j'étais, en fait, depuis 15 ans, chargé par le synode des évêques arméniens de préparer cette canonisation. Et, je veux dire, cette proclamation de doctorat. Et, en réalité, j'étais très content parce que il me semblait que, je dirais, la reconnaissance de la dimension mondiale, si vous voulez, de certains aspects de la chrétienté arménienne était indissociable de la reconnaissance du génocide.
Nous étions avec Jean-Pierre Mahé, merci beaucoup, autour de la thématique de la spiritualité arménienne. Je remercie Valérie Lavalard, Danny Journeau, Didier Pinault pour la réalisation de cette émission de Chrétien d'Orient avec Sébastien de Courtois. Nous retrouvons le service protestant avec Michel Schaeffer. Merci.